J'ai dit bonjour. Hein.
Bonjour.
Ah, bonjour à tous. J'avais prévu de souhaiter une bonne fête des mères, mais on va laisser ça pour les annonces. Hein. Donc c'est une joie pour chacun d'entre nous d'être dans la maison du Seigneur pour écouter sa parole, n'est-ce pas? Amen. Et le peuple dit Amen. S'il y a une dimension fondamentale sans laquelle personne ne peut subsister devant Dieu, où aucun croyant ne peut prétendre vivre sans elle, où chacun a besoin d'elle pour grandir, où aucune église ne peut croître sans sa présence, s'il y a une réalité qui apparaît du début de la Bible jusqu'à la fin, si Jésus-Christ est venu pour la manifester de manière complète, glorieuse et définitive pour chacun d'entre nous, nous avons tous compris qu'il s'agit de la grâce. La grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul a pu dire, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Et c'est vrai. Si nous sommes debout aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Si nous pouvons espérer dans ce retour glorieux, c'est par la grâce de Dieu. Si nous pouvons nous prosterner jour après jour devant le trône de la grâce, c'est par la grâce de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous une histoire qui est triste, mais aussi très belle. L'histoire de Mephibosheth. Cet homme qui n'a pas pu connaître le destin qui lui était promis. Nous connaissons très peu d'histoires sur cet homme. On ne sait pas beaucoup sur cet homme. Peu connu. Nous savons que le mot Mephibosheth signifie voix, parole, expression de Baal. Hein? Donc c'est un nom qui évoque l'idolâtrie païenne. Personne n'aimerait appeler son fils Mephibosheth. Personne. Nous savons que Mephibosheth était le fils de Jonathan. Et que Jonathan était le fils de Saül, le premier roi d'Israël. Le nom Mephibosheth n'apparaît que 14 fois dans la Bible. Alors que le nom de Jonathan, son père, apparaît 91 fois. Et de Saül, 368 fois. On se souvient de Jonathan étant l'ami intime de David, un grand guerrier. On se souvient de Saül comme étant le premier roi d'Israël, même s'il fut rejeté, mais il n'empêche qu'il était le premier roi d'Israël. Orès, qui se souviendrait d'un orphelin dont le grand-père a été déchu de la royauté par Dieu à cause de sa désobéissance, qui est mort à la guerre ainsi que son fils, Jonathan. Personne ne se souviendrait d'un estropié. Mephibosheth était estropié. Personne. Dans l'histoire, nous savons tous que dans l'histoire, on retient que les vainqueurs, que les grands. On retient très peu l'histoire des petits. Pourtant, ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible va consacrer tout un chapitre, 14 versets, sur l'histoire de Mephibosheth. Non pas à cause de lui, mais à cause de l'histoire qui se cache derrière ce passage. Lisons ensemble, mes amis, dans 2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. L'histoire de Méphibosheth. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Ziba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Ziba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Ziba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ? » Et Ziba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth !» Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Ziba, serviteur de Saül, et lui dit, « je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Ziba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Ziba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Donc le texte nous raconte l'histoire de cet homme. Méphibosheth, le petit-fils de Saül, qui fut le premier roi d'Israël. Le fils de Jonathan, qui lui était le futur héritier du trône d'Israël. Donc nous comprenons que Méphibosheth était destiné un jour à régner sur Israël. Il est né dans une famille royale pour vivre et connaître plus tard les plus belles choses sur la terre, pour dominer sur tout un peuple et pour être servi comme un roi par ses sujets. Alors que tout lui était promis, alors que sa vie devrait se dérouler comme sur un tapis rouge, en l'espace de peu, il connaîtra les plus grandes désillusions, les plus grandes tristesses, les plus grandes souffrances. Méphibosheth connut dès son enfance la souffrance et le malheur. Pour mesurer la grâce qui lui est faite, il faut comprendre d'abord ce qu'il a été. La personne qui devait s'occuper de lui, qui devait prendre soin de lui, veiller sur lui, la personne qui avait pour mission de l'amener dans une éducation au trône, sa nourrice, un jour, le laissa tomber. 2 Samuel 4, verset 4 nous le dit. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva à Jisrael la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Dès son enfance, Mephibosheth connut la souffrance et le malheur dès son enfance. Il fut estropié. Et en tant qu'estropié, il ne connut pas la joie de jouer avec des enfants de son âge. Il ne connut pas la joie d'avoir des amis, certainement. C'est un homme qui a tout perdu. Son rang social, je rappelle qu'il était destiné à être roi un jour, fils de l'héritier. Il devint un héritier déchu, il n'avait rien. Il n'avait plus rien, à tel point qu'il habitait chez un tel, il habitait chez Makir, dans un coin perdu, Lodebar. En hébreu, Lodebar veut dire coin perdu, coin, un village, une bourgade insignifiante. Il n'avait plus d'avenir. Et il me semble qu'en vivant chez Makir, dans cette bourgade cachée, certainement, il vivait dans la peur d'être un jour découvert. Il vivait dans la peur un jour d'être tué. Il avait perdu la santé. Comme le dit le texte, il était estropié des deux pieds. Il y a un petit détail que j'ai lu dans 2 Samuel 19, verset 24, lorsque David revint de la guerre contre son fils Absalom. Il est dit ceci, un petit détail qui nous permet de comprendre l'ampleur de sa blessure, de Mephibosheth. Dans 2 Samuel 19, verset 24, voilà ce qu'il est écrit. Mephibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds. Voilà. Il n'avait point soigné ses pieds. Normalement, un boiteux de naissance, je ne suis pas médecin, ça se passe à l'intérieur. Il n'y a pas de plaie ouverte. Quelqu'un qui est boiteux, il est boiteux. Dans le cas de Mephibosheth, lorsqu'il est tombé à l'âge de 5 ans, certainement, il a dû avoir des plaies ouvertes, je pense. Puisqu'il est dit là, il n'avait pas soigné ses pieds. Donc on peut imaginer la souffrance de cet enfant, devenir boiteux dès l'âge de 5 ans, avec des plaies ouvertes. Et être boiteux avec des plaies ouvertes à l'époque, ce n'est pas comme maintenant. Mais on peut facilement l'imaginer. Donc c'est un enfant qui a grandi dans la souffrance, dans la douleur, et qui n'a pas connu, comme je l'ai dit tout à l'heure, la joie de vivre avec des enfants de son âge. Et comme descendant de Saül, Mephibosheth méritait la mort. Vous savez que dans l'Antiquité, dès qu'un roi venait au pouvoir, systématiquement, il tuait tous les membres de la dynastie opposante pour pouvoir régner tranquillement. Et Mephibosheth méritait la mort. Et cela explique pourquoi, lorsqu'il s'est présenté devant David, David lui dit « Ne crains point, ne crains point ». Il pensait que c'était son dernier jour. Donc, c'est un homme qui a connu la souffrance et qui vivait dans la crainte de la mort à tout moment. Et on peut imaginer son angoisse psychologique et morale, savoir qu'à tout moment, quelqu'un pouvait débarquer pour le tuer. Et personne n'aimerait vivre avec de tels sentiments. Personne. David ne le connaissait pas. David a connu son père. Mais David ne le connaissait pas. En revanche, Mephibosheth connaissait David. Il savait que c'était le nouveau roi. Même s'il vivait caché, mais il savait que David était le nouveau roi. Et comme je l'ai dit, il vivait caché par crainte de la mort. Mais Dieu lui fit grâce. C'est ce qui est merveilleux dans la Bible, ce sont les mains de Dieu. Dieu lui fit grâce. Et comment cette grâce s'est-elle manifestée envers Mephibosheth? D'abord, par son entourage. Ça peut paraître surprenant, mais c'est par son entourage. J'arrive. À la question que David a posée, n'y a-t-il plus personne de la maison de David? Non, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Ziba répondit, il y a un fils de Jonathan perclus des pieds. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'entourage de Mephibosheth, s'est déjà manifestée la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que si personne semblait ne pas connaître Mephibosheth, mais il y avait au moins une personne en Israël qui le connaissait. C'était Ziba. Ziba connaissait Mephibosheth. À tel point que, à la question du roi David, parce que imaginez que personne ne le connut. Il serait passé, Mephibosheth n'aurait pas connu la grâce. Il serait passé à côté de ce qui allait changer sa vie. Mais par la grâce de Dieu, il y avait au moins une personne qui le connaissait, c'était Ziba. Qui le connaissait au bon moment. Ça me pousse à nous dire que si sur cette terre, mes amis, si nous ne sommes pas très célèbres, si nous ne sommes pas renommés, si nous ne sommes pas très connus, mais il y a au moins une personne qui nous connaît et qui pourrait nous parler de nous auprès de Dieu. Amen. Une personne. Donc c'est l'entourage de Mephibosheth qui a été un élément majeur dans la grâce, mais bien sûr la personne de David. Il trouvera grâce auprès de David. Et quelle fut la première réaction de David? C'est d'aller le chercher. Alors, c'était plus fort que moi. Ce matin dans le culte, j'ai pensé à mon ami, Patrice. Et je me suis dit, mais si Patrice venait, Patrice, la porte s'ouvrait et il y avait un cordon de gendarmes et de policiers qui venaient chercher Patrice. Patrick. Il vient le chercher. Quelle pourrait être la première réaction de Patrick? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque David envoya chercher Mephibosheth, David savait ce qu'il faisait. Mais Mephibosheth ne savait pas ce que David avait dans le cœur. Et c'est comme par exemple, on vient me chercher, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans le cœur de celui qui vient me chercher. Et la délégation qui est venue chercher Mephibosheth, c'était pour la grâce. Ils sont venus chercher Mephibosheth pour lui donner la grâce. Pour qu'il puisse vivre dans la grâce. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et David envoya chercher Mephibosheth afin de lui faire du bien. Il dit plusieurs fois, verset 1, verset 3, verset 7, « Je veux lui faire du bien. » Je veux lui faire du bien. Voilà. N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Verset 7. Ne crains rien, car je veux te faire du bien. Dieu a manifesté sa bonté et sa grâce envers Mephibosheth en voulant lui faire du bien. Du bien. Du bien. Dieu veut lui rendre aussi tout ce qui a été enlevé à Saül, verset 7. Et non seulement Mephibosheth va tout recevoir de ce que son grand-père possédait, le roi Saül, non seulement il va tout recevoir l'héritage, mais d'autres personnes vont travailler pour lui. Mais la plus belle chose, mes amis, la plus belle chose, c'est que David va changer le statut de Mephibosheth. D'un estropié, de quelqu'un qui n'avait aucun avenir, de quelqu'un qui vivait dans la crainte de la mort, de quelqu'un qui était rejeté, quelqu'un qui vivait dans un coin perdu, oublié de tous. Mephibosheth mangera à la table du roi David, comme un fils. C'est extraordinaire, la grâce de Dieu. Mephibosheth mangera à la table du roi David tous les jours. C'est vrai que la plus belle chose que David ait pu faire pour Mephibosheth fut de changer son statut. Il changea son statut. À cause de la promesse qu'il avait faite à Jonathan son père, d'user de bonté envers sa descendance. Le nouveau statut de Mephibosheth fut celui de fils. Et son nouveau statut, mes amis, lui donna de se regarder peut-être pour la première fois de sa vie en face. De se regarder. Il se considérait comme un chien mort. Déjà, un chien, c'était pas un animal très valorisant en Israël, mais un chien mort. Et Mephibosheth, lorsqu'il se levait le matin, il se voyait comme un chien mort. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la grâce de Dieu par David lui donnera de se regarder en face comme un homme, comme un être humain. Il va acquérir maintenant le statut de fils. Parce que qu'est-ce qu'il mange à la table d'un roi? Qu'est-ce qu'il mange à la table d'un roi, mes amis? Il n'y a que les fils. Il n'y a que les fils. Qui mange à la table du roi. Et c'est pas manger une seule fois, mais il dit, il mangera tous les jours à la table du roi. Quelle grâce merveilleuse! Quelle grâce merveilleuse! Et non seulement il obtint un nouveau statut, non seulement il mangea tous les jours à la table du roi, mais il fut protégé par David. Disons dans 2 Samuel chapitre 21 verset 7, lorsque, une histoire aussi triste, mais la Bible en parle, hein, où à cause d'une des fautes du roi Saül, il fallait, verset 7 l'est dit, parce que lorsque les Gabaonites cherchaient vengeance et qu'il fallait tuer les descendants du roi Saül, verset 7, le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux ces deux personnes devant l'Éternel. Les Gabonites cherchaient vengeance et Mephibosheth devait mourir. Là encore, nous voyons la grâce de Dieu qui se manifeste par David qui protégea Mephibosheth. Non seulement il mangea tous les jours à la table du roi, mais il fut protégé par le roi David. Donc ça, c'est l'histoire de Mephibosheth. Une histoire qui nous parle tous, n'est-ce pas? Parce que, n'oublions pas que c'est un homme qu'on a laissé tomber. Mephibosheth fut un homme qu'on a laissé tomber. Sa nourrice qui devait prendre soin de lui, il a laissé tomber. Alors, comment cette histoire de Mephibosheth peut-elle nous aider à nous, chrétiens, en mai 2013? Comment pouvons-nous trouver des enseignements aujourd'hui, en mai 2013? Il me semble que cette histoire illustre de manière très forte notre incapacité à mériter quoi que ce soit. Nous sommes tous, mes amis, des estropiés de la vie. Nous sommes tous des estropiés du péché. Nous sommes tous des estropiés de la méchanceté des hommes. J'aime ce verset de Tite 3, verset 3, verset 3. Un verset qui est très fort, qui marque notre nature. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Voici la nature de l'homme. Voici la nature de l'homme. Nous étions tous, mes amis, des estropiés de la méchanceté des uns des autres. Nous méritions tous la mort, comme Mephibosheth, tous la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritions tous d'être éloignés de la face de Dieu. Mais cette histoire illustre aussi notre dépendance totale de la grâce de Dieu à cause de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ, un jour, est venu manifester le salut, la grâce de Dieu, que nous pouvons aujourd'hui, mes amis, non seulement vivre, mais bénéficier de toute la grâce de Dieu, grâce à Jésus-Christ. Dieu nous a élevés à une position de fils. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu et nous devons être fiers d'être enfants de Dieu. Parce que Dieu a choisi de faire de chacun d'entre nous ses enfants d'adoption. C'est une grâce, mes amis. Au même titre que Mephibosheth a reçu la grâce de devenir quelqu'un qui mange à la table du roi David tous les jours. Dieu nous a élevés à une position de fils, Galates 4, versets 6 et 7. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, nous ayant donné le statut, mettons, d'enfants de Dieu, nous sommes invités tous les jours à participer à la table du Seigneur, la table de la grâce, tous les jours. Mephibosheth mangea tous les jours à la table de David pendant sa vie. Mais nous, en Jésus-Christ, c'est éternellement que nous allons nous asseoir à la table du roi. Éternellement. Pour terminer, parce qu'il faut toujours terminer, il y a un petit détail qui a attiré mon attention. Au verset 13, la fin, il dit « Il était boiteux des deux pieds. » Au départ, au verset 3, il est dit, il y a encore un fils de Jonathan percu des pieds. Et à la fin, il est dit, il était boiteux des deux pieds. Pourquoi l'auteur répète-t-il deux fois la même chose? On a compris qu'il était boiteux. On a compris qu'il était percu des pieds. On a compris cela. Mais pourquoi l'auteur répète-t-il à la fin qu'il était boiteux des deux pieds? Pour souligner quelque chose de fondamental, mes amis. Pour souligner que notre statut n'enlève en rien à notre condition. Notre statut d'enfant de Dieu n'enlève à rien à notre condition. Et aussi, pour souligner, pour que nous nous rappelions toujours que notre nouveau statut dépend uniquement de la grâce de Dieu. Lorsqu'on est assis à table, on ne voit pas les pieds. On ne voit pas les pieds, mes amis. Lorsqu'on est attablé avec des amis, en famille, devant le roi, on ne voit pas les pieds. Mais les pieds sont là quand même. Et les pieds sont là pour nous rappeler que si nous sommes attablés, c'est par la grâce de Dieu. Que si nous sommes maintenant enfants de Dieu, mes amis, c'est par la grâce de Dieu. Que si nous pouvons à tout moment nous approcher du trône de la grâce, de la table du roi, c'est par la grâce de Dieu. Car nous sommes tous des pécheurs et que nous méritions tous la mort. Mais que Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. Dieu nous a fait grâce. Donc je termine par ce beau verset. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Donc que Dieu nous donne la grâce de saisir à chaque instant sa grâce merveilleuse qui a transformé notre vie et qui veut la transformer jour après jour jusqu'à son retour glorieux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.